La France bouge continue, c'est l'heure Elisabeth Assayac de découvrir la solution du jour de Dora Nana.
Et oui, parce que vous avez peut-être retrouvé une carte cadeau ou une smart box que vous n'utilisez pas. Eh bien Dora, il existe une solution qui permet de revendre ces cartes ou ces chèques cadeaux avant qu'il arrive à expiration.
Et ça s'appelle Sleeping Money, c'est un site internet qui permet de revendre les titres cadeaux non utilisés, c'est-à-dire les chèques, les cartes cadeaux, les cartes prépayées et les coffrets cadeaux, les fameuses box qu'on sait qu'on n'utilisera pas, faute de temps, par manque d'utilité ou parce que l'enseigne ne nous plaît pas plus que ça, par exemple. Bonjour Arnaud Leplay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le fondateur justement de Sleeping Money. Ça fonctionne comment Sleeping Money? Si j'ai dans mes tiroirs ou qu'Elisabeth a dans ses tiroirs une carte cadeau qu'on nous a offert à Noël.
Ou une box.
Voilà, ou une box, on se rend compte qu'on ne va pas forcément l'utiliser ou qu'elle ne nous plaît pas. Je me rends sur votre site, expliquez-moi, ça se passe comment?
Et c'est tout simple en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Et donc si vous avez une box, une carte cadeau qui est encore valide, on ne prend pas les cartes périmées bien sûr, là on ne peut rien faire. Mais si elle est encore valide et que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser ou que c'est une carte cadeau pour une marque qui ne vous intéresse pas plus que ça, c'est un cadeau un peu raté qui est tombé à côté, vous pouvez préférer de récupérer votre argent et d'aller le dépenser comme bon vous semble dans un magasin. Donc, en fait, sur la plateforme, la personne qui a la carte cadeau peut mettre en vente, fait une annonce pour mettre en vente sa carte cadeau ou sa box. Et en face, on a d'autres membres qui sont à la recherche de cartes cadeaux ou de box, qui, pour le coup, eux, les intéressent et les rachètent. Et en fait, pour ce faire, le vendeur va consentir un léger rabais sur
évidemment
le prix. Il va récupérer son argent. Et en face, les acheteurs vont récupérer une carte cadeau avec un petit peu moins cher, ce qui fait une réduction une fois qu'elle est utilisée en magasin.
Alors, sleeping money, en anglais, c'est argent qui dort, enfin en français plutôt. On sait combien il y a de cartes ou de chèques cadeaux comme ça qui sont non utilisés tous les ans et qui sont à jamais perdus. Du coup, c'est de l'économie.
Alors, c'est
Elisabeth en a deux, apparemment.
Ouais, moi, j'en ai deux à la maison.
Déjà, elle a perdu peut-être 40
invite,
euros.
Je vous invite à venir sur le site dès que l'émission est terminée.
Moi, c'est fichu, moi.
La prochaine, pensez-y à la prochaine. Donc, quel est le taux d'une non-utilisation? C'est un sujet qui est assez peu abordé, on communique assez peu dessus. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits dessus depuis une quinzaine d'années, qui vont entre entre 5% et 40%. Donc, on peut dire que, grosso modo, entre 15 et 20% des cartes ne seraient jamais utilisées. Et c'est très variable en fonction du support. Par exemple, les coffrets cadeaux ont un taux de non-utilisation qui est supérieur. Après, certains sont prolongeables dans le temps. On peut voir avec l'émetteur. Mais si vous ne voulez vraiment pas l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose de le prolonger. Il vaut mieux la revendre.
Que dit notre coach Frédéric Rossi?
Alors, moi, j'ai trois coffrets cadeaux qu'il faut que j'utilise là avant la fin de l'année.
Et ben voilà. On est tous concernés autour de cette table.
Moi, je suis allé sur le site. Effectivement, j'ai trouvé que c'était très instinctif en matière d'utilisation, très simple pour à la fois les vendeurs et les acheteurs. Donc, ça met en confiance tout de suite. On voit qu'il y a une bonne. Que le site est bien géré, que c'est simple et que. On se dit, on va pouvoir récupérer notre argent derrière si on est vendeur ou inversement. Je m'interroge vraiment sur la profondeur du marché, en fait. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? On sait que ça fait partie quand même intégrante du business model des gens qui font des cartes cadeaux ou des coffrets cadeaux, de compter sur...
Ils misent sur ceux qui
n'utilisent pas in fine. Mais en même temps, voilà, on a énormément de mal à avoir des chiffres clairs sur le sujet. Et puis, il va falloir vous faire connaître là aussi, parce que des marketplaces, il y en a plein pour vendre tout. Il y en a déjà d'ailleurs qui permettent de revendre les choses qu'on a eues à Noël, par exemple, et ça marche très bien juste après les fêtes. Et donc, comment vous allez faire pour être sûr que vous avez le bon positionnement et que vous êtes connu des gens de votre cible, les gens qui ont vraiment ce coffret cadeau dont ils ne savent pas quoi faire?
Arnaud Leplay.
Alors, pour la taille du marché aujourd'hui, donc on s'est focalisé sur les cartes cadeaux, les chèques cadeaux, les coffrets cadeaux et les cartes prépayées. La caractéristique commune, c'est d'avoir une date de fin de validité et une valeur monétaire. Et ces produits-là, en France, ça représente un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros par an. Si on a 20% qui n'est jamais utilisé, ça fait 1 milliard d'euros. Et sachant qu'après, il y a d'autres marchés sur lesquels on peut étendre le modèle, parce que des choses qui se périment et qui sont non échangeables, non remboursables. Je ne sais pas, si vous réservez une chambre d'hôtel, vous tombez malade, vous n'avez pas pris l'assurance annulation.
Les miles d'avion aussi.
Les miles, les miles de compagnie aérienne qui expirent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le même process d'échange avec quelques variations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est focalisé sur les titres cadeaux.
Mais les boîtes, on est sûr qu'elles ne sont pas utilisées parce que.
Alors justement, l'intérêt de passer sur Sleeping Money, c'est d'avoir un tiers de confiance qui va certifier la validité des cartes, la validité des,
ça,
des coffrets
vous,
cadeaux. C'est moi qui fais le tiers de confiance. l'intérêt, c'est en fait, au niveau de la transaction, c'est que toutes les cartes cadeaux, tous les produits qui sont vendus sur la plateforme passent par nos bureaux pour être expertisés et certifiés et avant d'être envoyés à l'acheteur. Et donc, on est certain que le produit est valide.
C'est l'avantage plutôt que d'aller sur le bon coin.
Par exemple.
Ça rétablit la confiance. Merci Arnaud Leplay d'être venu nous présenter Sleeping Money.
Merci.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous dans la France Bouge, juste après le journal de 13h. Gros plan sur les médicaments. Sont-ils bien conservés? Comment éviter les mauvaises interactions? Gros plan sur la sécurisation autour des médicaments. Des entrepreneurs français ont inventé des solutions technologiques justement pour les sécuriser. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans la France Bouge, seconde partie. Gros plan aujourd'hui sur le médicament. Nous vous en avons parlé dans le journal. Le paracétamol ou l'aspirine ne seront peut-être plus en libre service en cause des surdosages et des effets secondaires parce qu'ils ne sont pas toujours utilisés correctement. Face à cela, il existe des entreprises françaises qui ont inventé des solutions pour sécuriser la prise de médicaments. Nous allons les découvrir. Pour en parler autour de la table, notre coach du jour, Frédéric Rossi. Vous êtes le directeur général délégué de Business France, Dora Nana, qui m'accompagne toute cette semaine. Vous nous donnez toutes les infos en plus. Vous êtes journaliste à la rédaction d'Europe 1. Parce que le respect de la chaîne du froid n'est pas seulement l'affaire des aliments, le monde médical est aussi concerné. Bonjour Johan Caboni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général, le fondateur de la société Kovea. Kovea, K-O-O-V-E-A, c'est une solution qui s'occupe de la chaîne du froid pour le transport des médicaments du laboratoire à la pharmacie, c'est ça?
Exactement.
Alors racontez-nous.
Kovea, aujourd'hui, la problématique, elle est partie d'où? Elle est partie d'il y a 20 ans, il y a eu une explosion des biotechnologies. Qu'est-ce que c'est une biotechnologie? C'est les médicaments de demain. C'est les médicaments qui vont, de manière générale, embarquer un principe actif, un organisme vivant qui va permettre de soigner des pathologies qui vont être lourdes et conséquentes, comme le cancer. Ces pathologies-là, donc ces médicaments, sont thermosensibles, donc sensibles à la température. Ils doivent respecter des plages de température bien précises pour pouvoir être utilisés. Si ce n'est pas le cas, on va avoir des risques sanitaires graves, pouvant aller... dans le meilleur des cas, un produit qui va devenir inactif, donc contre le cancer.
Aucun effet.
Aucun effet. Donc, quand on parle de cancer, c'est déjà très problématique. Mm-hmm. Et dans le pire des cas, qui va pouvoir entraîner jusqu'à la mort. Notamment
les effets secondaires très importants.
Exactement.
Quand vous parlez de médicaments, vous parlez là de ce qu'on vient de dire là dans le journal, du paracétamol, de l'aspirine, ou vous parlez des anticancéreux, des médicaments très lourds, très importants?
Alors, aujourd'hui, on parle plus des médicaments qui soignent des pathologies très lourdes.
Très grave,
mais
d'accord.
Il faut savoir que
l'ibuprofène... C'est là où le danger est le plus important.
C'est là où le danger est le plus important parce qu'on est sur des pathologies qui sont très lourdes. Vous prenez un doliprane qui a moins d'effet, c'est moins grave. C'est moins grave qu'un anticancéreux. Par contre, sur un doliprane, on a aussi une problématique de chaîne de froid. Ils doivent respecter entre 15 et 25 degrés. Et ça, les gens ne le savent pas au quotidien.
Donc vous mesurez la température dans des contenants froids, c'est ça? Comment vous vous y prenez?
Alors,
par exemple, si j'ai des médicaments à la maison, vous faites comment?
Alors nous, on n'accompagne pas le bout de la chaîne du froid. Aujourd'hui, la chaîne du froid, ça va être beaucoup d'acteurs. Ça va partir du laboratoire pharmaceutique et ça va aller jusqu'au patient en bout de chaîne. Nous, on accompagne vraiment la partie professionnelle. Donc on va accompagner les laboratoires pharmaceutiques dans la logistique de leurs médicaments. On va accompagner tous les transporteurs de santé qui vont délivrer les médicaments dans les officines, dans les hôpitaux. Donc en fait, on est capable, notre solution aujourd'hui est agnostique et permet d'accompagner en fait tous les cas d'utilisation de tous nos clients et tous les acteurs de cette chaîne du froid.
Donc vos clients, ce sont les acteurs de la chaîne du froid.
Ce sont tous les acteurs de la chaîne du froid.
Ce n'est pas moi particulière.
Non.
Alors vous envoyez des alertes aux utilisateurs lorsqu'on détecte une anomalie, là tout de suite, il y a une notification qui arrive.
Exactement. Donc vous avez, alors vu qu'on est en live, à pouvoir le montrer. Vous avez ce...
C'est ça le capteur, d'accord. Voilà. J'allais vous dire, justement, il y a un capteur technologique pour permettre de surveiller le médicament et sa température.
Exactement.
Et ça,
vous avez ce capteur-là de température
que
vous allez positionner au plus proche du produit, donc en fonction de votre cas d'utilisation. Et en temps réel, il va transmettre ces données à un hub qui est à proximité, qui va apporter la connectivité, peu importe où on se trouve.
qu'on comprenne bien, donc ce capteur, oui. Il est posé à côté de mon médicament qui est transporté
exactement.
Dans un camion réfrigéré, par exemple, pour, en vue d'aller vers une pharmacie ou vers un, autre chose, en fait. C'est pour les ça peut être dans le transport de ce médicament vers une pharmacie ou vers un autre endroit, peut-être.
Je vous donne un exemple simple. Vous avez un camion frigorifique qui va transporter d'un entrepôt vers une pharmacie. Vous allez avoir dans ce camion des capteurs qui vont être positionnés et à l'avant, vous allez avoir le routeur, donc le hub, qui va permettre d'apporter la connectivité, de transmettre toutes les données en temps réel. L'avantage du temps réel, c'est de passer d'une solution qui va être curative, on va être capable uniquement de constater de la viabilité du produit, à une solution qui va devenir préventive.
Vous allez pouvoir prévoir s'il y a un danger ou pas pour le
médicament.
En fait,
on va pouvoir alerter les personnes qui transportent le produit pour qu'elles puissent agir et conserver cette viabilité du produit.
Frédéric Rossi, notre coach.
Alors, moi, j'ai appris qu'il y avait à peu près 35 milliards de dollars de produits qui étaient jetés parce qu'on ne respectait pas la chaîne du froid. Donc, je trouve ça assez hallucinant.
Produits, médicaments, vous voulez dire.
Produits de santé. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'évidemment, on met en jeu la vie d'autrui et finalement, on ne sait pas du tout, on n'a pas la certitude quand on prend un médicament que toute la chaîne du froid a bien été respectée. Alors, du coup, je trouve la solution très intéressante. Et je me dis que pour que cette solution, finalement, elle fonctionne et que les logisticiens l'achètent, il faut peut-être deux choses, ou en tout cas, il y a deux aspects. Il y a d'une part, en termes réglementaires, quelle est la réglementation aujourd'hui en la matière? Et est-ce que la réglementation ne pourrait pas évoluer en votre faveur pour pouvoir intégrer ce type d'outils dans la chaîne du froid? Comment sont faits les contrôles? Et puis le deuxième, c'est la demande des patients, finalement, et du corps médical pour être sûr que, in fine, ça remonte d'en bas, ce besoin, et qu'on l'adresse grâce à vos solutions.
Donc,
Allez-y. Vous l'avez touché du point, les normes et réglementations dans le milieu de la santé sont aujourd'hui très strictes, drastiques, et on a des bonnes pratiques de distribution, des bonnes pratiques sur les médicaments aujourd'hui qui tendent à devenir des normes et réglementations. Donc ça tend à se durcir, et effectivement, toutes ces normes et réglementations qui évoluent, mais qui évoluent dans un sens plus strict, tendent à ce qu'on utilise des solutions comme la nôtre.
Dora, il y a des instances qui sont chargées de surveiller nos médicaments.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est le système chargé de surveiller justement nos médicaments et leurs bons usages, les effets indésirables, etc. On a bien vu que dans le scandale du Mediator, justement, ils ont été remis en cause. Aujourd'hui, le cœur du système, que vous compreniez bien, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui depuis 2012
l'ANSM.
Alors, qui surveille? Ce sont les pharmacologues médicaux qui sont des hospitalo-universitaires, qui sont dans des centres régionaux de pharmacovigilance, qu'on appelle CRPV. Et ça, c'est la pierre angulaire de la sécurité du médicament. Et très peu connue du grand public, en fait, leur mission, c'est de travailler sur des cas individuels de maladies médicamenteuses.
Donc, des maladies liées
aux médicaments. Et ils travaillent à partir des questions posées par les professionnels de santé et les patients. Ils ont des retours, par exemple, sur les déclarations d'effets indésirables qui parviennent sur le site, on va le donner, signalement-santé.gouv.fr. Chaque cas est analysé, enregistré dans une base de données nationale de pharmacovigilance. Et après, ceux qui sont très importants, qui sont marqués, sont signalés spécifiquement à l'ANSM, qui prend, elle, après, qui fait des signalements et qui met en œuvre des mesures adaptées à la situation, informer les professionnels de santé, le public, modifier les conditions d'utilisation, ou voir un retrait, Elisabeth, définitif ou provisoire du médicament du marché.
À noter que vous avez été en plus récompensé cette année par un CES. Innovation Award à Las Vegas.
Exactement.
Les Américains vous regardent.
On était présents aux États-Unis au CES et effectivement, le besoin est en France aujourd'hui, mais il est partout dans le monde.
Bah oui, notamment pendant la canicule.
Exactement, pendant la canicule.
On a fait appel à vous.
Il y a beaucoup de besoins. On a aux États-Unis beaucoup d'essais cliniques qui sont les premiers et de loin dans le monde à proposer des essais cliniques aujourd'hui. Donc, il y a un marché qui est très fort aux États-Unis, mais il y a un marché qui est très fort aussi en Afrique. En Afrique, on accompagne une ONG américaine qui propose des vaccins contre Ebola, donc des vaccins en phase d'essai clinique, et on les accompagne dans cette logistique-là.
On reste ensemble, on continue à parler de la sécurisation de nos médicaments.
Il est 13h19.
Europe 1.
Avoir une information complète et rapide sur un médicament, ça existe grâce à l'intelligence artificielle et une start-up l'a mis en place.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré à la sécurisation autour des médicaments. Est-ce que par exemple vous pensez que vous conservez bien vos médicaments à la maison? Dites-le-nous sur Twitter @Europe1. Vous pouvez également nous appeler si vous avez des questions, par exemple 39-21, c'est 50 centimes la minute, Elisabeth.
Le Vidal, vous le connaissez, hein, c'est ce gros livre épais rouge, souvent rangé soigneusement dans les bibliothèques des médecins. Il existe depuis toujours, hein. Et bien aujourd'hui, en plus du Vidal, il y a Pozos. Bonjour Emmanuel Bilbao.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Pozos. Donc j'ai pris l'exemple du Vidal pour tenter de décrire un petit peu votre entreprise. Vous centralisez toutes les informations sur les médicaments et grâce à votre technologie, en une seconde, on peut avoir les informations que l'on souhaite.
Oui, absolument. Je vais sûrement expliquer déjà pourquoi c'est important. Mmh. Aujourd'hui, en France, tous les jours, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers se posent des questions sur les médicaments. Et c'est absolument normal. C'est rien qu'en France, il y a plus de 5000 médicaments différents sur le marché. Impossible pour un soignant de maîtriser pleinement l'usage de chaque médicament. Donc, ils doivent se poser des questions, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ces questions-là, ils se les posent toujours au même moment. C'est lorsqu'ils ont le patient face à eux. Ils n'ont donc pas le temps d'aller ouvrir des gros bouquins, de faire des recherches dans les publications sur Internet. Il leur faut l'information fiable tout de suite. Or, aujourd'hui, c'est impossible.
Donc, vous avez créé Pozos pour répondre à cette demande. Donc, c'est à destination des médecins.
Aujourd'hui, c'est à destination des soignants. Médecins, pharmaciens, infirmiers. Pour nous, c'est un vrai problème de santé publique de ne pas pouvoir avoir un accès immédiat à une information fiable.
Par exemple, ils sont face à un patient, ils sont en train de prescrire un médicament, même un antibiotique. Hein. Et là, c'est quoi? C'est sur ce qu'il y a à l'intérieur?
En fait, un patient, c'est un patient qui a d'autres traitements, qui a peut-être d'autres pathologies, qui peut être une femme enceinte, qui peut être âgée. Et tout ça doit être pris en compte quand on prescrit un médicament. Et ces informations-là existent, ça c'est super, mais elles sont parmi un ensemble de sources d'informations, toutes incomplètes, qui se complètent les unes des autres, et très difficiles d'accès. Ce qu'on veut, nous, c'est de pouvoir transformer la façon dont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers ont accès à cette information, simplement en posant une question, comme s'ils la posaient à leurs confrères, et en obtenant tout de suite les extraits de toutes ces sources d'informations, remontées par pertinence, pour pouvoir faire une bonne prescription.
Donc, bon, c'est un peu une sorte de Google du médicament?
Alors, Google va donner une liste de sites, on cliquera sur les liens, on va devoir parcourir
vous avez fait le travail au préalable.
Voilà, on va extraire le paragraphe de ces sources qui donnent la réponse.
Au niveau mondial, justement? J'ai des réponses au niveau mondial, c'est-à-dire je vais taper, je vais voir les exemples d'interaction ou de problèmes d'effets indésirables à l'autre bout de la planète, en Chine, sur le même médicament, sur la même molécule.
C'est une bonne question. En fait, derrière ça, il y a le problème des langues. En fait, la plupart des publications sont en anglais. Donc l'enjeu aussi, c'est de pouvoir demain, par une question en français, accéder à l'information en anglais, peut-être traduite, qui donne une information. Exactement. Ouais.
C'est plutôt un super Frédéric Wikipédia aussi, avec de l'intelligence artificielle derrière, type Watson chez IBM ou autre.
C'est ça.
Mais rendu abordable pour l'ensemble des professions de santé.
On pose une question comme si on posait les questions à son confrère. On a les extraits d'informations, mais jamais l'outil vous dit de prescrire, pas prescrire ou à telle dose. L'outil vous laisse en fait prendre des décisions, une décision éclairée, par l'accès à toute l'information immédiatement.
Moi, je trouve que c'est intéressant aussi pour le patient parce que ça lui donne confiance. Quand on est face à un médecin et qu'il hésite sur la posologie, le truc, il ouvre son grand livre, etc., ça donne un petit peu moins confiance. Alors que là, de manière un peu discrète, il consulte son ordinateur et puis tout de suite, il a la bonne réponse. Je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est rapide, c'est plus sûr, ça donne confiance.
Mais finalement, plus il se pose des questions, mieux c'est. Oui. Nous, on doit inciter à poser des questions, que ce soit non plus un luxe, mais vraiment une chose normale de toujours se poser des questions.
Un outil complémentaire pour le médecin. Elle est déjà utilisée, votre solution Pozos est déjà utilisée
par des
médecins,
par des hôpitaux. Aujourd'hui, on travaille plein d'acteurs pour la mettre à disposition du plus grand nombre. L'enjeu, c'est que tout le monde, tout médecin, tout pharmacien, peut-être tout patient demain dans le monde, ait accès à cette information le jour, la nuit, à tout moment. Et pour ça, on doit travailler avec d'autres acteurs, évidemment. Donc, on est en train de co-construire cet outil-là. Mais aujourd'hui, il y a une communauté d'environ 500 médecins et pharmaciens qui, tous les jours, testent l'outil, nous font des feedbacks.
Des hôpitaux aussi?
Des hôpitaux, absolument, oui.
Des CHU?
Le CHU d'Amiens était un des premiers hôpitaux à nous aider sur ce projet-là.
Mais d'ailleurs, vous avez monté l'entreprise à Amiens.
Exactement, oui.
Je crois qu'il y a un laboratoire, il y a une aventure américaine aussi qui commence, parce que vous avez, nous, un partenariat avec Microsoft?
Avec Microsoft, qui nous soutient dans cette action-là aussi. Microsoft veut permettre aussi de donner accès à ces outils-là au plus grand nombre. C'est un partenaire pour nous qui est très, très clé aussi. Notre solution fonctionne en cloud. Ça permet évidemment aussi de pouvoir à tout moment de l'utiliser.
Et d'ailleurs, en fait, on se connaissait déjà. On s'est rencontrés à Boston, qui est l'endroit où toutes les sociétés du biomédical américain et mondial se trouvent. C'est là où il faut être. Et vous avez la chance d'avoir une solution qui est a priori sans concurrent aujourd'hui et qui a une solution qui peut avoir un avenir mondial tout de suite.
C'est ce qu'on souhaite.
Dora, il y a, je crois qu'il y a d'autres entreprises dans le secteur du médicament que vous avez trouvé. Alors, ce n'est pas Posos, hein, c'est, parce que vous, c'est assez unique, hein, c'est une solution unique, mais vous en avez trouvé
d'autres. Oui, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes et sociétés qui travaillent dans ce secteur, justement, pour améliorer la prise en charge des médicaments et tout. C'est un secteur qui est assez nouveau, hein, faut le dire. Donc, par exemple, il y a Synap Médecine, c'est l'acteur majeur du bon usage du médicament. En fait, c'est une start-up qui a été créée il y a 2 ans par. Il y a beaucoup de médecins qui s'intéressent au sujet. Donc, en l'occurrence, c'est 2 médecins qui travaillent en CHU. Ils ont créé cette plateforme, c'est de l'intelligence artificielle. Ils rassemblent 900 millions d'informations justement sur les médicaments et ça permet en temps réel d'aider les médecins et les pharmaciens, un peu comme ce que vous faites, pour leur prescription et la délivrance des médicaments.
Vous, voilà. Emmanuel, vous êtes pharmacien.
Oui, absolument.
Avant d'être entrepreneur.
C'est ça.
Il y a aussi, par exemple, CapCode qui, pour le coup, évalue les effets indésirables des médicaments. Ils font de l'analyse en fait, de pharmacovigilance, dont j'ai parlé tout à l'heure, de ce qu'expriment les patients sur les réseaux sociaux au sujet des médicaments. C'est ce qu'on appelle de l'analyse
de
l'expérience patient. C'est de la veille, exactement. Mmh. Et ça permet d'avoir des indicateurs, justement, sur les traitements. Ça contribue à la chaîne de surveillance des produits et ça détecte aussi tous les effets indésirables, non traités ou inconnus jusque-là. Ça sert aux médecins, aux autorités de santé. Ils travaillent notamment, par exemple, sur le Levothyrox avec l'ANSM.
Allez, on reste ensemble. On continue à parler de la sécurisation autour des médicaments.
Il est 13h28.
Europe 1.
Créer son jumeau digital pour mieux se soigner, Exactcure, voilà, qui est une start-up, pardon, qui a mis au point votre avatar pour protéger votre santé.
Conservez vos médicaments à la bonne température, mieux comprendre les interactions des médicaments dans notre corps. On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec vos invités, Elisabeth. Si vous avez des questions pour eux, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous sur Twitter @ou #Europe1.
Oui, bonjour Sylvain Benito.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs d'ExactCure. Alors vous êtes parti, vous, du constat que le médicament, ça nous soigne, c'est très bien, mais ça peut aussi tuer hein, s'il n'est pas approprié, si on le prend mal. Donc face à cela, vous avez créé le jumeau digital du patient.
Absolument.
De quoi s'agit-il ?
Alors effectivement, le constat est très juste. Le médicament, c'est une très belle invention hein, qui nous rend quotidiennement beaucoup de services, bon, mais qui peut aussi s'avérer être dangereux. On sait que le médicament peut procurer des effets secondaires, environ 10 000 effets secondaires pouvant entraîner la mort chaque année en France.
C'est jamais anodin de prendre un médicament.
C'est jamais anodin.
Même un Doliprane, on le précise, compte tenu de l'actualité. Même un Doliprane.
Donc, c'est effectivement beaucoup plus que, par exemple, les accidents sur la route. Donc, c'est quand même un véritable enjeu de santé publique. Et donc, nous, en fait, on est parti de ce constat-là pour effectivement proposer une solution un petit peu originale, innovante. Et on s'est donné comme mission de, en fait, modéliser de façon personnelle la réponse du patient au traitement en utilisant ce qu'on appelle le jumeau digital du patient.
Alors ça veut dire, par exemple, vous souhaitez créer votre jumeau digital, vous allez aller sur un site internet et vous allez créer des caractéristiques vous concernant. Comment ça marche ?
Alors, au niveau du produit, donc, nous on développe une application web mobile.
Ok, donc sur le téléphone.
Au travers de cette application, en fait, le patient et le professionnel de soins, puisque la solution s'y adresse bien sûr les besoins du professionnel de santé.
Donc c'est à destination du médecin ?
Exactement, le médecin, le pharmacien, qui est aussi co-responsable avec le médecin de la pertinence de l'adéquation
du traitement.
Donc, ces utilisateurs rentreront dans l'application.
Donc, via le soignant.
Exactement, donc ces utilisateurs rentreront les caractéristiques du patient.
Par exemple.
Donc, l'âge, le poids, le sexe, l'éco-traitement qui sont très importants.
Les traitements en cours.
Absolument, ouais. Tout à fait. Puisqu'on sait que 2 médicaments pris de façon conjointe peuvent interagir ou pas. Mm-hmm. Et quand il y a interaction, il faut être prudent.
C'est un cocktail.
Voilà, exactement. Background génétique, quand on a l'information, et dans certains contextes, c'est important de prendre cette information en compte. Et on utilise en fait toute cette information qu'on va en fait faire converger dans un modèle mathématique prédictif qui, lorsqu'il sera interrogé, pourra en fait simuler l'effet du traitement dans le corps du patient. Alors, l'effet du traitement, qu'est-ce que c'est ? C'est, petit 1, quelle sera la concentration sanguine du médicament induite par la prise ?
Parce que cette concentration sanguine, ce n'est pas forcément la même selon l'individu.
Non, effectivement. Et c'est tout l'enjeu en fait, de la médecine personnalisée que de prévoir de façon individuelle la réponse d'un patient au traitement. Donc, cette exposition en termes de concentration sanguine et l'effet du médicament qui sera, on va dire, corrélé à cette exposition à savoir est-ce que le médicament reste dans une bonne fourchette de concentration d'efficacité, de non-toxicité, de sécurité.
Et ça, le médecin ou la pharmacien, quand il nous prescrit des médicaments, il ne peut pas l'anticiper, voilà, il sait qu'on prend tel ou tel traitement, puisque c'est le médecin qui
alors, c'est une bonne question.
L'ordonnance. Il n'a pas la capacité humaine, l'algorithme est plus puissant pour ça ?
Alors, on part pas de zéro quand on a un médicament qui est mis sur le marché. Hein. Les résumés des caractéristiques du produit, qui sont en fait une source de documentation officielle, expliquent effectivement quelles seront, on va dire, les données, les caractéristiques typiques du médicament.
Oui, on a tout dans la notice explicative à l'intérieur de chaque boîte.
Bon, la réalité du terrain fait que pour un patient donné, dans un contexte donné, la réponse est quand même parfois difficile à prédire. L'exemple classique qu'on enseigne dans les facultés de pharmacie, c'est le cas du patient obèse déficient rénal. Donc si un patient est obèse, en général, on doit augmenter la dose pour, on va dire, parvenir à une concentration efficace et sécurisée pour le patient. Parce que, tout simplement, voilà, médicament va se répartir dans un volume plus grand. Si le patient est déficient rénal, le médicament sera éliminé moins vite. Donc, il faut diminuer la dose pour, on va dire, éviter un risque de surdosage. Et la question est, si le patient est obèse et déficient rénal, qu'est-ce qu'on fait ?
Et donc, vous intervenez là-dessus ?
On intervient là-dessus.
Vous pouvez faire du sur-mesure, finalement.
Tout à fait.
C'est de la prescription sur-mesure.
On peut faire du sur-mesure et du sur-mesure rapidement, parce qu'un praticien de santé arrivera toujours à converger vers la bonne pose au lit par essai-erreur, mais parfois, en fait, on n'a pas le temps.
Et vous pouvez avoir la solution avant même d'avoir qu'on essaye différentes posologies. Frédéric Rossi, notre coach.
Vous avez combien de paramètres et combien de pathologies différentes que vous adressez ? Parce que j'imagine que vous créez, en fait, un peu comme en marketing, on crée des personas, quelque part. Là, vous allez créer des typologies en fonction des pathologies que vous voulez traiter. Et puis, est-ce que ça, c'est itératif après ? Est-ce que, petit à petit, vous améliorez votre modèle ?
Oui. Alors, on va partir avec la construction d'un profil typique. Donc, typiquement avec l'âge, le poids, le sexe du patient. Son statut rénal, son statut hépatique, on arrive déjà à se faire une première idée, en réalité assez précise. Alors après, effectivement, il faut prendre les éléments contextuels qui nous permettront d'aller, on va dire, un peu plus loin. Et nous, on va encore plus loin parce qu'on a conçu en fait l'application de façon à ce qu'elle puisse, au fur et à mesure des prises, traiter des feedbacks des retours du patient.
Au fur et à mesure, ça va s'affiner.
Voilà, pour corriger en fait en temps réel le modèle et le rendre le plus prédictif possible
et le plus proche possible de la réalité du patient.
Exactement.
On continue à parler de nos médicaments, comment les prendre, comment les conserver, comment éviter les interactions. À tout de suite.
Il est 13h37.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Vous aussi, faites-vous attention à vos médicaments. Tiens, savez-vous combien vous en avez dans votre armoire à pharmacie ? Que pensez-vous de ces innovations qui nous aident à mieux utiliser nos médicaments ? Appelez-nous pour nous parler de vos choix. On attend vos témoignages au 3921.
Dans la France bouge, on parle cet après-midi de la sécurisation des médicaments avec vos invités, Elisabeth Assayag.
Oui, nous sommes avec Frédéric Rossi, notre coach, qui est directeur délégué, général délégué de Business France, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1, et nos invités Emmanuel Bilbo de Posos. Posos, c'est de l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre les questions sur les médicaments et de générer immédiatement des réponses fiables. Nous sommes avec Sylvain Benito, cofondateur d'ExactCure, qui vous modélisez notre jumeau digital pour simuler l'efficacité et les interactions des médicaments dans notre corps. Et Johan Caboni, vous êtes le fondateur de Couvea. Couvea, ce sont des capteurs mobiles connectés en temps réel à distance pour surveiller la température des médicaments. C'est à destination de ceux qui les transportent, des laboratoires et des personnels soignants. Alors, une question pour vous trois, je crois, Céline.
Oui, une question de Marc. Il nous l'a envoyé sur Twitter, hashtag Europe 1. Les enjeux économiques pour la commercialisation d'un médicament sont colossaux pour les labos pharmaceutiques. Subissez-vous des pressions dans vos entreprises ?
En gros, est-ce que vous êtes indépendant totalement ? Qui répond ?
Non, moi, je peux répondre. On n'a pas de pression du tout, nous, chez Posos.
Emmanuel Bilbo.
Parce que clairement, le bon usage du médicament, un médicament bien prescrit, un patient qui est bien soigné, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Donc, l'industrie pharmaceutique en question a tout intérêt à ce que l'information soit bien transmise, soit fiable, pour que tout le monde y gagne, en fait. Les autorités, les médecins, surtout les patients, et puis forcément aussi l'industrie.
Et puis, vous reprenez que de l'information qui a été validée et qui est officielle, en fait. Il n'y a pas de biais.
Vous proprenez l'information du médicament, finalement, vous êtes toujours lié.
C'est un cercle vertueux pour tout le monde.
C'est un cercle vertueux, exactement. Quand on parle de la sécurisation du médicament, on pense tous au désastre sanitaire du Mediator, ce médicament antidiabétique utilisé comme un coupe-faim, des centaines de morts, des milliers de personnes handicapées. Il y a le procès là qui a commencé, il va durer jusqu'en avril. Et lors de ce procès, la médecin généraliste Anne-Carole Bensadon a dit cette phrase: « La vie du médicament est prioritaire sur la vie des malades ». C'est aussi un petit peu ce que vous souhaitez changer avec vos solutions.
Exactement.
Qui veut répondre? Johan Caboni, de Couvert.
De Couvert. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut proposer aux laboratoires et à tous ces acteurs de la chaîne du froid? C'est une maîtrise en fait de leurs médicaments à destination des patients. L'objectif aujourd'hui du médicament, c'est de soigner. C'est pas de rendre malade ou de tuer. Donc c'est vraiment leur proposer une solution pour éviter tous ces risques sanitaires, tous les scandales qu'on a pu connaître autour du médicament et les risques économiques qui sont affectés pour eux. Et on en a parlé tout à l'heure avec le chiffre de 35 milliards de pertes qui est énorme.
En fait,
c'est aussi une autre époque, Mediator. C'est il y a presque 8 ans, je crois, 8-10 ans. Les médecins à l'époque étaient beaucoup moins informatisés. Il fallait voir un bureau de médecin, c'était un ensemble de bouquins, des publications, des choses par-ci, par-là. Très difficile pour lui de s'informer et de vérifier en fait, les informations. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir lever le moindre doute quand on est médecin. Au moindre doute, on vérifie, on ne prend pas de risque. C'est ça l'enjeu et je pense qu'aujourd'hui, la situation est très différente de la situation d'il y a 10 ans lors de l'FME.
Sylvain Benito.
Je crois que l'intérêt aussi, l'enjeu dans tout ça, c'est d'être rapide et réactif quand il y a un problème. Effectivement, à l'époque du Mediator, quoi qu'on en dise, il y a eu des problématiques de prescription hors AMM.
Il faut attendre 2009 pour que ce soit interdit.
Tout à fait, mais aussi des...
Mais les premières alertes datent des années 90. Donc, il faut du temps à chaque fois pour réagir.
Tout à fait, mais aussi des prescriptions en dehors de l'indication principale qui ont fait aussi conséquence que le reporting de pharmacovigilance ne s'est pas si bien fait que ça. Donc voilà, avec des solutions digitales telles que celles que nous développons, nous arriverons à capturer beaucoup plus rapidement quand est-ce que le médicament marche mal, quand est-ce qu'il marche bien aussi.
Il y a une heure à laquelle il faut prendre son médicament, il faut toujours suivre la même heure.
Oui,
ça dépend des médicaments. Il y a des médicaments qu'il faut prendre en mangeant, d'autres en dehors du repas, certains en se couchant.
Et ça aussi, il faut le préciser aux patients.
Exactement. Ouais. C'est généralement la notice du médicament. Mais encore une fois, le patient devrait pouvoir aussi vérifier d'une autre manière.
Brièvement, Dora, les grands scandales justement récents autour des médicaments.
Vous avez tous parlé du Mediator, mais il y avait aussi la Dépakine qui était un antiépileptique et responsable depuis 1967 de malformations chez 2000 à 4000 enfants et des troubles neurodéveloppementaux chez nombre d'entre eux. Il y a eu aussi le Distilbène, donc pour prévenir les fausses couches, on parlait de ça tout à l'heure, nombreuses anomalies génitales, stérilité, augmentation de certains cancers chez les enfants exposés in utero, ça on en a beaucoup parlé aussi. Le scandale de l'hormone de croissance et bien entendu le Levothyrox dont on parle encore aujourd'hui. Pas moins de 32 000 signalements d'effets indésirables ont été déclarés parce qu'il y a 3 millions de personnes quand même qui prennent de la levothyroxine indiquée principalement comme traitement substitutif pour l'hyperthyréoïdie.
Alors Dora l'a dit, c'est un marché nouveau pour vous. Ce sera quoi la suite?
La suite demain, c'est...
Johan Caboni pour Couvea.
La suite demain, c'est nous déjà, on apporte une première solution qui permet de sécuriser la chaîne du froid, de les aider à automatiser tout leur suivi pour les médicaments. L'idée de demain, c'est d'aller encore plus loin que ça, c'est de proposer vraiment de pouvoir suivre le médicament directement dans son emballage et de manière unitaire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de recherches à faire parce que les coûts sont élevés pour fabriquer une solution comme ça. Il y a des problèmes de connectivité, mais l'idée, c'est ça, c'est de rendre le médicament intelligent
partout
dès demain, partout dans le monde.
Et de s'ouvrir
aussi sur autre que le milieu médical, mais aussi l'agroalimentaire et d'autres secteurs qui ont cette problématique.
Pozos pour Emmanuel Bilbao, c'est quoi la suite?
Le challenge pour nous, et c'est un challenge très général de la santé, c'est l'accès aux données aussi. La même question posée pour une personne âgée, une femme enceinte, un enfant, va obtenir forcément des réponses très différentes. Donc tant qu'on ne pourra pas personnaliser la réponse en fonction du patient et des données très précises, on sera toujours un peu limité. Notre rêve pour nous, c'est d'arriver à des données accessibles et une réponse très personnalisée.
Et vous
ça
êtes...
se rapproche un peu d'Exactcure.
Mais c'est ça, vous êtes très en lien avec Exactcure, Sylvain Benito. C'est ça, vous aussi, c'est personnaliser ces données, que ce soit jeune, âgé, qu'on puisse avoir quasiment un traitement sur mesure.
Oui, absolument. Et l'enjeu est encore une fois considérable. Nous, on souhaite qu'au travers de ces solutions, le patient soit effectivement plus impliqué dans son traitement, plus observant. Et en étant plus impliqué, plus observant, le médicament marchera mieux.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter vos entreprises et d'être venus nous en parler en direct sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1, Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Et tout de suite, Elisabeth, on découvre l'entreprise qui va bien.
Oui, bonjour Laurent Percher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Dronisos. Dronisos, c'est une start-up bordelaise.
Exactement.
Et votre projet, à la base, parce que maintenant elle a beaucoup grossi, hein, c'était de démocratiser l'usage du drone.
Alors plus spécifiquement, l'usage du drone pour le monde du spectacle.
Et donc de le démocratiser dans des fêtes, dans des festivals.
Exactement. Et créer des nouveaux moyens de communiquer via des drones lumineux.
Alors vous l'utilisez comme un produit de spectacle ?
Oui, exactement. Ce qu'il faut voir, c'est imaginer qu'on vous donne la capacité de prendre le contrôle des étoiles et vous utilisez ça pour écrire des messages
c'est
dans le ciel.
C'est joliment dit.
Voilà, écrire des messages dans le ciel, afficher des images, raconter des histoires. Alors nous, ce n'est pas des étoiles qu'on utilise, mais c'est des centaines de drones lumineux qui sont complètement synchronisés et surtout automatisés. Donc il y a un seul télépilote qui gère des centaines de drones.
Donc vous avez, avec vos drones, je crois que vous avez pu dessiner une tour Eiffel en pleine nuit, un visage qui souffle sur une fleur. Enfin, vous créez des créations artistiques.
Voilà, la seule limite aujourd'hui, elle est créative, elle est de moins en moins technologique.
Comment faites-vous ? C'est quoi votre technique ?
Alors notre technique, c'est à la fois d'écrire la partition, c'est-à-dire de pré-calculer l'ensemble des vols des drones, et ensuite surtout d'avoir un outil qui permet de gérer l'ensemble des drones avec une seule interface, le chef d'orchestre finalement. Et après, chacun des drones, eux, sont lumineux et sont aussi parfaitement obéissants, ce qui nous permet d'avoir un balai de drones lumineux.
Mais quand on vous parlait de balai de drones lumineux, j'ai l'impression que moi ça me fait penser au feu d'artifice. Vous voulez remplacer le feu d'artifice ?
On ne peut pas le remplacer, on n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas, aujourd'hui, le compléter, le renouveler, parce que c'est un art qui a des millénaires. En tout cas, on donne le même divertissement aux gens que le feu d'artifice.
Laurent Percher, comment ça vous est venu cette idée d'exploiter le drone sous cette forme artistique ?
Alors l'idée, elle est même venue plus spécifiquement à Jean-Dominique Lorenz, un des associés, qui, au début, au CES de Las Vegas, il y a 3 ans...
Passage obligé, hein, oui, l'impression, hein, pour les start-upers.
Voilà, avait été missionné notamment avec Parrot pour organiser un spectacle de drones. Et de là, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande et voir des gens qui étaient capables de payer pour des spectacles de drones. Petit à petit, on a poussé les murs et maintenant on fait des spectacles intérieurs, mais aussi, comme je vous l'ai expliqué, des spectacles extérieurs.
On vous trouve partout, hein. Vous êtes partout dans le monde, là bientôt à Montréal, pour un festival, où on vous trouve au Futuroscope.
Oui, au Futuroscope, donc les parcs d'attractions où notre système il est installé et il tourne plusieurs fois par jour, hein, donc où les gens sont autonomes, des grands festivals, des grandes opérations marketing aussi, de la publicité. On a fait la publicité de Peugeot à la 508 SW en printemps dernier. Donc oui, on est même un peu surpris par la capacité de créatif de marque de s'approprier notre technologie.
Vous parliez de Parrot, donc vous utilisez les drones de chez Parrot. Hein. Parrot, c'est une entreprise qui fabrique des drones que nous avions reçus là, à la D'accord. France Bouge notamment. Et c'est avec eux que vous travaillez tout le temps. Ce sont leurs drones.
Voilà, c'est grâce à eux qu'on a été aussi rapide, puisqu'on s'est basé sur leurs drones et après on a transformé leurs drones grand public en des drones de spectacle.
Frédéric, notre coach, que dites-vous ?
Alors moi déjà j'adore le nom Dronisos, je trouve que c'est génial parce que ça évoque évidemment les cieux, les dieux et
un
puis
peu
en plus
aussi.
Et puis en plus Dionysos plutôt c'est pas le moins sympa des dieux grecs.
C'est vrai.
Et puis après moi ce que je trouve c'est que vraiment c'est une société qui est emblématique quelque part du génie français dans 3 facettes. D'une part, c'est des ingénieurs finalement, c'est des gens qui maîtrisent des algorithmes, qui savent coder, qui savent aussi maîtriser des choses aéronautiques, et on sait qu'on est très bon dans ce secteur-là. C'est également beaucoup de créativité, parce que finalement, c'est des tableaux vivants en 3D que vous projetez dans les airs. Et puis en plus, c'est une société qui vient des territoires, de Bordeaux, donc je trouve que c'est sympa, tout se passe pas à Paris, c'est bien.
On fait appel à vous pour organiser des spectacles de drones ?
Oui, oui.
Ce sont des entreprises,
des entreprises, c'est à la fois pour du divertissement, donc les grands parcs d'attractions, des grandes émissions de télé, de l'événementiel pour des grandes cérémonies. On a fait des grandes compétitions internationales en Inde, au Moyen-Orient, et effectivement des entreprises du corporate pour promouvoir des marques ou créer l'événement.
Ça coûte cher, hein, je ne peux pas en faire dans mon jardin.
Non,
si avec Elisabeth, on a décidé de se faire ça un week-end, ce n'est pas possible. On est
non,
d'accord.
C'est cher, ça reste un produit premium. On est très peu à être capable de le faire au niveau mondial.
Entre 10 000 et 150 000 euros,
oui,
je crois.
Hein. Ouais. On va oublier, alors, Elisabeth.
C'est les prix qu'on pratique et on est très
pour
peu.
Pour un beau mariage.
Pour des très, très grands mariages. Ouais.
Alors, et en 3 ans, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que là, vous êtes déjà en train de vous développer aux États-Unis. Vous ouvrez un bureau à Orlando.
Bah nous, on est assez fiers d'être vraiment bordelais, ancrés à Bordeaux et d'avoir un rayonnement international. Et de, voilà, c'est aussi un critère, des arguments pour recruter, avoir une dimension internationale. Et donc là, on veut accélérer aux États-Unis. On lève des fonds justement pour accélérer aux États-Unis parce que là, il y a un vrai marché, notamment parce que les feux d'artifice, petit à petit, sont interdits de par la pollution.
Vous voyez que vous voulez petit à petit les remplacer, hein, plus
ou
moins.
En tout cas, on veut donner des alternatives.
En tout cas, merci Laurent Perché, hein. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Dronisos. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Merci à vous Frédéric Rossi, vous êtes le directeur général délégué de Business France.
Merci.
C'était votre
beaucoup,
première
Elisabeth.
En tant que coach.
Ouais.
Bravo.
J'étais très heureux de découvrir toutes ces sociétés. Enfin, certaines d'ailleurs qu'on connaissait puisque on les a accompagnés, notamment celle de la santé sur le marché américain.
Tant mieux, merci Dora, à demain. Céline, à demain aussi.
À demain Elisabeth.